Vous écoutez la radio du Monde, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Et toute l'actualité africaine, c'est avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. 3 incendies en une seule journée. Reportage dans un instant à Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 500 maisons sont parties en fumée avant-hier mercredi. Dans ce journal également le Tchad, période de tension dans le sud du pays entre éleveurs et agriculteurs. Plusieurs incidents et représailles ont fait 6 morts ces derniers jours dans la province du Logon oriental. Le Cameroun, avec la coalition d'opposition ATP, elle précise ce qu'elle entend par « transition pacifique ». En cas de victoire à la présidentielle de l'an prochain, le Congo-Brazzaville qui change son chef de la police nationale. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Victor Missistrano. On parlera notamment préparation des JO en basket et tirage au sort des qualifications de la prochaine CAN. C'est du football. C'est un problème qui se répète donc de manière récurrente à Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, dans l'est de la RDC. Le problème des incendies. Le mois dernier, en juin, 4 personnes sont mortes asphyxiées après des départs de feu dans des quartiers de Nyamugo et Nkafu. Et hier, c'est dans celui de Nyalukemba que les flammes, 3 incendies successifs, ont détruit les habitations d'environ 500 familles. Reportage de William Bassimiki.
Sur les terrains dévastés, Simon Kitwanda Sadiki, la cinquantaine, essaie de retrouver les traces de sa maison réduite en cendres.
C'est d'ici où était chez moi. Hein. C'était juste 5 minutes après mon arrivée à la maison. J'ai tout perdu. Je n'ai sauvé que ma famille, c'est-à-dire mes enfants et mon épouse. En tout cas, personne ne s'attendait. Et il y avait le vent qui soufflait, vraiment un vent très violent et qui a fait que nous puissions tout perdre parce que les maisons sont presque toutes construites en planches.
Ces maisons en bois brûlent régulièrement depuis une décennie dans cette vallée marécageuse communément appelée Louziba, jadis destinée à la culture des Colocas. Champion Tuité est l'un des sinistrés. Pour lui, la cause est évidente.
C'est un incendie accidentel. Je pense que le bilan est lourd parce que les maisons sont collées les unes aux autres.
Zenon Karumba est le maire de Bukavu. Il pointe du doigt l'urbanisation de sa ville.
La solution viendra de la population. De construire ici des espaces propres et pas impropres. C'est pour Bukavu qu'on allait revoir les constructions.
La société civile locale exhorte les gouvernements congolais à trouver une solution durable à ces problèmes et propose la délocalisation et la relocalisation des sinistrés à des endroits sûrs. William Bassimike, Bukavu, RFI.
L'Est congolais, où un nouveau procès a débuté hier dans la province du Nord-Kivu pour des militaires accusés d'avoir fui devant l'ennemi. En l'occurrence, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Avant-hier, une autre procédure en flagrance a vu 25 soldats être condamnés à la peine de mort. Sentence qui va servir d'exemple et décourager les fuyards, a estimé hier un porte-parole militaire du Nord-Kivu. Les organisations de la société civile congolaise, elles, sont bien plus réservées. À l'image de Regan Miviri, du GEC, le groupe d'études sur le Congo, pas certain que ces condamnations à mort produisent l'effet escompté.
Le cas de Derni Bongo, on a comme l'impression que ce sont des militaires relativement en bas de l'échelle qui sont rendus responsables. Donc le fait que l'armée n'a pas pu faire face à une menace rebelle directement, on pense que c'est tout simplement parce que ceux qui étaient sur le terrain n'ont pas été efficaces. Peut-être que oui, mais est-ce qu'ils ont toute la responsabilité? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt des problèmes structurels liés à l'équipement, à la motivation de ces militaires, notamment au fait qu'ils ne sont pas en mesure d'accomplir leur mission comme il se doit? Et ça, normalement, ça c'est la responsabilité de l'État congolais et plus précisément de l'armée. Bien sûr, les militaires doivent répondre des actes qu'ils auraient commis sur le terrain des opérations et notamment une fuite devant l'ennemi. Mais je pense que cette question, elle va au-delà même de juste cette infraction-là. Un militaire qui pille, ce n'est pas seulement parce qu'il veut piller. Il faut se poser la question, c'est quand la dernière fois qu'il a été doté de sa ration alimentaire et beaucoup d'autres questions en fait.
Regan Miviri du groupe d'études sur le Congo, joint par Alexandra Branjon, l'Est congolais, où par ailleurs des experts mandatés par les Nations Unies décrivent, je cite, une augmentation alarmante de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, augmentation aussi des mariages forcés et des mariages d'enfants. Ils disent craindre, ces experts, qu'avec le départ de la force de l'ONU, avoir accès à de telles informations deviendra de plus en plus difficile. Au Tchad, on signale dans le sud du pays de nouveaux affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans la province du Logon oriental, précisément autour de la préfecture de Gorée. Au moins 6 hommes ont été tués, 4 autres blessés ces derniers jours. On fait le point avec Esdras Ndikouman.
Le premier incident a eu lieu il y a juste une semaine à Timbéri, une vingtaine de kilomètres de Gorée. Une altercation entre un éleveur et un agriculteur dégénère. L'agriculteur est tué, puis plus tard, c'est un éleveur qui va trouver la mort dans les affrontements qui ont suivi. Puis il y a eu un nouvel incident il y a 2 jours. Un éleveur aurait fait passer ses bœufs dans le champ d'arachide d'un agriculteur à 7 km de Gorée. Celui-ci demande réparation, le ton monte et tous les deux sortent des machettes selon le chef de canton de Gorée, Médar Batouba Malarassem. L'éleveur est tué, l'agriculteur lui s'en sort avec des blessures. Les frères de l'éleveur vont voir rouge. Ils prennent leurs armes et se lancent dans des représailles. 3 corps d'agriculteurs sont retrouvés dans les champs le lendemain mercredi, précise le procureur auprès du tribunal de grande instance de Gorée, Nerambay Doumbamian. Cette chasse à l'homme a fait également 4 blessés selon le chef de canton de Gorée. Depuis, la tension est en son comble. Les agriculteurs se sont barricadés dans leur village et n'osent plus aller dans les champs par peur des représailles. Mais les autorités de la province du Logon oriental sont déjà sur place pour amener le calme selon plusieurs sources. Un suspect a déjà été arrêté et 2 autres sont vivement recherchés, précise le procureur.
Esdras Ndikoumana, voisin du Tchad, le Niger continue de reprendre en main son secteur énergétique. On apprend que les militaires au pouvoir à Niamey ont suspendu le permis d'exploitation de l'uranium accordé à Goviex, groupe canadien à qui il est reproché d'avoir trop tardé pour débuter ses opérations. Il y a 2 semaines, c'est le français Orano qui a subi le même sort pour le site situé près d'Arlit. Le Niger, qui accueillera par ailleurs demain le premier sommet officiel de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe donc le Niger et ses voisins du Mali et du Burkina Faso. Un sommet qui se tiendra à la veille de celui de la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, quittée au début de l'année par ces 3 pays après des sanctions suite aux coups d'État qui ont porté les autorités actuelles au pouvoir à Niamey, Bamako et à Ouagadougou. RFI, 5h37, à Yaoundé, au Cameroun. Qu'entend-il précisément par transition pacifique? Au Cameroun, où c'est le temps des grandes manœuvres en vue des élections prévues en 2025, législatives et municipales d'abord en février, et surtout la présidentielle prévue en octobre. La transition pacifique, donc, c'est ce que souhaite mettre en place si l'un d'entre eux est élu président. Les opposants Olivier Bilé, Célestin Djamène et Cabral Libi, et c'est même dans le nom de leur alliance ATP, Alliance pour une transition pacifique, dans les tuyaux depuis le début de l'année. Les 3 hommes viennent d'apporter des précisions sur ce qu'ils prévoient et sur leur timing. Amélie Tullet.
Cette transition sera une période d'exception, déclarent les signataires. Une halte historique pour un nouveau départ. Pas une simple alternance résultant d'un changement de personne à la tête de l'État, mais une refondation des textes fondamentaux pour passer, je cite, d'une dictature néocoloniale hyper centralisée et corrompue à un État souverain et démocratique dans lequel de larges pouvoirs sont dévolus aux collectivités locales. Dans l'hypothèse d'une victoire, une fois le candidat soutenu par l'ATP élu à la présidence, s'engagerait alors, en théorie, une transition de 4 ans. Convocation d'états généraux, gouvernement d'union nationale, jusqu'à un référendum et des élections générales, dont une présidentielle à 2 tours. Ce que le manifeste ne dit pas, c'est qui pour défendre les couleurs de l'ATP en 2025. L'ATP qui n'est pas le seul projet d'alliance au sein de l'opposition camerounaise dans l'optique des échéances de l'an prochain. Le candidat déclaré 2e à la dernière présidentielle, Maurice Kamto, et le député Jean-Michel Ninche portent ainsi le projet APC, Alliance politique pour le changement, ATP-APC, 2 mouvements déjà qualifiés en mars de clandestins par le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangadji.
Amélie Tullet, le Cameroun, où le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football autorise Samuel Eto'o à rester à la tête de la fédération. L'ancien attaquant des Lions Indomptables, blanchi d'accusations de matchs truqués, mais condamné à une amende pour son partenariat avec une marque de paris sportifs. Précision, explication avec Babacar Diarra.
Fidèle à sa ligne de conduite depuis les premières accusations, Samuel Eto'o avait nié, lors de son audition, avoir favorisé la montée du Victoria United dans l'élite camerounaise. Un échange audio avec le président du club, Valentin Quine, avait pourtant alimenté la controverse sur les réseaux sociaux, mais le jury disciplinaire de la CAF estime manquer de preuves pour poursuivre les 2 hommes. Eto'o peut donc conserver les commandes de la FECAFOOT jusqu'au bout de son mandat en 2027. Cependant, l'ancien joueur du Barça et de l'Inter va devoir s'acquitter acquittée d'une amende dans le cadre d'une autre affaire, cette fois plus personnelle. Son partenariat publicitaire controversé pour une entreprise de paris sportifs lui vaut en effet une amende de 200 000 dollars pour violation des principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif. Cerné de toutes parts, Eto'o doit aussi composer depuis mardi avec un appel à sa suspension de la part de l'Association des clubs amateurs du Cameroun, en cause cette fois sa double nationalité espagnole, incompatible avec ses fonctions à la FECAFOOT. L'AFCAC réclame ni plus ni moins que sa suspension à vie de toute fonction relative au football au Cameroun.
Babacar Diarra. Et puis du changement à la tête de la police nationale au Congo-Brazzaville. C'est par un décret présidentiel que celui qui dirigeait les forces de police dans le pays depuis un peu plus d'un quart de siècle a été remercié. Le général Jean-François Ndengue, 74 ans, remplacé par son adjoint à Brazzaville. Les précisions de Loïcia Martial.
Officiellement, aucune explication n'a été fournie. Selon une source proche de la police, l'homme avait déjà fait valoir ses droits à la retraite, mais avait été maintenu à son poste. À en croire la même source, cet officier était, je cite, « l'homme de la situation ». Dans un pays où les gangs violent, mutilent et tuent, visage souvent caché, derrière des lunettes noires, les manches retroussées jusqu'aux biceps, le général Jean-François Ndengue n'hésitait pas à aller sur le terrain pour rétablir lui-même l'ordre. Il est ciblé par la justice dans l'affaire dite des disparus du Beach, soupçonné d'avoir enlevé et fait disparaître des personnes qui rentraient d'exil en 1999. Il est inculpé en 2003 et brièvement arrêté à Paris. Deux ans plus tard, Jean-François Ndengue, 14 officiers et hauts fonctionnaires de l'État sont jugés puis acquittés par la justice congolaise. Le général Jean-François Ndengue vient d'être détrôné pour être remplacé par son adjoint, le général André Obami Itou fils, surnommé le King. Le président Denis Sassou Nguesso a fait aussi le ménage dans les services de renseignement. Leur administrateur général, le général Philippe Obara, a été remplacé. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
À Brazzaville, où il est 5h42, une heure de plus ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.